sur ce qu'on avait commencé. Je vais réviser un tout petit peu avec vous. C'était un peu difficile. Alors, c'était construit sur le Nefesh HaRaim. Le Nefesh HaRaim explique clairement que au début de la création, le Yetzer Hara, il est à l'extérieur. C'est l'image du Nahash. Le Nahash est à l'extérieur. Et Adam et Chava n'ont absolument aucun lien, aucun intérêt, aucun penchant avec le mal. Ils sont complètement, eux, ils produisent que du bien. Et à côté, il y a un domaine du mal. Le Nefesh HaRaim, je vous avais dit, pour bien montrer combien peu, combien peu Adam et Chava ont de lien avec le mal, dit ils sont à peu près dans la situation de quelqu'un auquel proposerait d'entrer dans le feu, quoi. De la même manière qu'on n'a aucune envie d'entrer dans le feu, eux n'avaient aucune envie de se lier, d'entrer dans le domaine du mal. Alors maintenant, son image avec le feu, elle est un peu compliquée. Le feu, bien sûr, ça chauffe, ça éclaire, mais en fait, à l'intérieur, c'est que de la destruction, donc c'est complètement vide, il n'y a pas de contenu intérieur. Mais le problème dans cette comparaison, c'est qu'on a l'impression que le pasouk qui dit exactement le contraire. Dans le pasouk, on dit très clairement que Chava, quand elle a vu le fruit interdit, il était beau, il était agréable, il ouvrait les horizons. Alors comment est-ce que Nefesh HaRaim peut le comparer avec le feu? Alors, c'est que, en fait, c'est vrai que le fruit est devenu coloré, séducteur, etc. Mais comme le feu, le mal était complètement vide. Et donc, si vous voulez, on pourrait dire la chose suivante. On pourrait dire que le tov, ça correspond à la vie. Et le mal, ça correspond à la mort. D'ailleurs, on dit traditionnellement que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est aussi le Yetzer Hara, c'est le Satan, etc. Ce sont différents noms de la même chose. Je ne sais pas ça. Et alors, le problème, c'est donc, d'un côté, vous avez la vie, et de l'autre côté, vous avez la mort. Qui va choisir la mort? Alors, il faut comprendre que quand on cède au mal, quand on entre dans le domaine du mal, alors il acquiert de la vie. Comment est-ce qu'il acquiert de la vie? La vie qu'il acquiert, c'est la vie de celui qui entre dans le mal. C'est-à-dire, sa neshama, sa vie, c'est elle qui est à l'intérieur maintenant du mal. Alors, bon, c'est complètement symétrique, parce que dire que c'est elle qui donne le côté vivant du mal. Le mal, il devient vivant parce qu'il est piqué, parce qu'il est il est assumé, il est vécu par l'être humain qui a cédé à ce mal. Donc, quand l'homme entre dans le mal, du coup, il y a quelque chose dans le mal. Alors, la question qui se pose, c'est puisqu'ils n'avaient, eux, aucune attirance vers le mal, comment se fait-il qu'ils aient cédé? Alors, la Torah, elle nous décrit la situation. Et le Midrash, il le décrit encore un peu plus. La situation est décrite dans Chazal de la manière suivante. Le Nahash, il a engagé la conversation avec Chava. Chava, Adam, c'est la même chose. Il a engagé la conversation avec elle pour l'obliger à répondre, il va dire quelque chose de faux. Il va lui dire la raison pour laquelle Hachem vous a interdit de manger du fruit de l'arbre, etc. C'est parce qu'il sait que si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir un Elohim comme lui. Alors avant ça, il a commencé pour... c'est un argument. La vérité, c'est que le premier argument, c'était de dire à Chava, si j'ai bien compris, vous ne pouvez manger, vous êtes dans un jardin, il y a plein de fruits, mais vous ne pouvez pas manger de ces fruits. Il sait très bien que c'est faux. Mais comme ça, elle va répondre. Elle va répondre non, ce n'est pas vrai. Et donc, le dialogue s'engage. Et donc, ce que le Nahash va faire, c'est qu'il va l'amener à envisager dans sa tête qu'est-ce qui se passerait si j'en mangeais. Donc, il va faire exister la transgression, manger de fruits interdits, du fruit interdit, dans la tête, comme une hypothèse à laquelle, bien sûr, on ne va pas céder. Mais essayer de se représenter, c'est ça son travail. Son travail de séduction, c'est ça. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Peut-être que ça a pris 1 minute, peut-être que ça a pris 120 ans, on ne sait pas.
Voilà, ah, ça y est, ça marche.
Démarrage d'ange de la main, voilà. Juste de
fini si je suis. Vous voulez bien fermer votre... Donc, on ne sait pas combien de temps ça a pris, ce processus-là, mais il a réussi à faire naître en elle un tsiour, une représentation. Et à partir du moment où cette représentation est là, alors quelque part, il existe donc un lien avec le mal. Un lien qui n'est pas du tout un lien dans lequel on veut céder. C'est un lien dans lequel, bien entendu, je ne vais pas céder. Mais qu'est-ce qui se passerait si je cède? Si vous voulez, à partir de rien du tout, quelque chose qui n'existe pas du tout dans l'homme. C'est pas que l'être humain, au fond de lui-même, il y avait une envie de faire le mal. C'est pas du tout, absolument pas. Nefesh HaMaim dit clairement, absolument rien. Le secret ici, c'est de faire naître un tsiour, une représentation. Donc, faire exister dans la forme de représentation avec laquelle on ne s'identifie pas encore du tout, etc. Mais qu'est-ce qui se passerait si je mangeais? Donc, c'est une représentation de faire comme si la chose avait été faite. Et c'est toujours comme ça en réalité. Personne ne peut se représenter le goût d'une pâtisserie. Comment est-ce que la pâtisserie peut être intéressante? Simplement que je dois m'imaginer ce qui se passerait si j'en mangeais. C'est ça qui va faire naître le goût. Bon, c'est le travail de la publicité, n'est-ce pas? C'est-à-dire y entrer, c'est-à-dire se représenter la chose comme étant faite. Ça, c'est ce que Rava, c'est ce qui s'est passé chez Rava. Et à ce moment-là, dans sa représentation de la chose comme étant faite, alors qu'est-ce qu'elle en savait? Est-ce qu'elle en savait? C'est un peu ce que le Narash lui a dit. Bon, elle n'en savait rien, mais elle s'est représentée. Et donc, du coup, le fruit s'est mis à exister, enfin, à exister d'une certaine manière, c'est-à-dire exister comme quelque chose de désirable, de bon, de doux, de, etc. Quand quelqu'un prend ce, je ne sais pas, c'est, on parlait de ça, de son premier verre d'alcool, de whisky, etc. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient apprécié tout de suite. Simplement que on a fait miroiter, on a montré des images, des dialogues, etc., de ce qui se passerait si tu en buvais. Tu en buvais, tu pourrais t'identifier à tel et tel personnage, etc. Tout un travail d'identification qui se fait. C'est un travail qui a été fait, c'est très connu, c'est le travail sur les Marlboro, sur les cigarettes. Au début, il y avait toujours l'image de la cigarette, après, il n'y a plus besoin de l'image de la cigarette. Le personnage Marlboro suffit à évoquer tout ce qu'on peut attendre de cette drogue. C'est comme ça dans toutes les drogues et dans toutes les tavotes, dans tous les désirs. C'est toujours, on imagine. Et du coup, il faut comprendre que ce qui existe dans mon imagination, c'est une forme d'existence. La chose commence à exister de cette manière-là. Elle n'existe pas dans le monde concret encore, mais c'est une forme d'existence. Alors, le détour par la faute de Adam et de Chava, il est utile parce que pour faire tshuva, il faut se représenter concrètement comment ce serait la vie en ayant fait tshuva. Et il faut que cette représentation soit, évidemment, une représentation de quelque chose d'agréable. Si quelqu'un se représente que s'il fait tshuva, alors il va passer des shabbatot d'été insupportables avec que des interdits, évidemment, il n'aura jamais l'envie de faire tshuva sur ce domaine-là. Et par conséquent, dans la représentation de, par exemple, comment ce serait si je faisais tshuva sur le Shabbat, il faut mettre en avant le Zahor et pas le Shamor. Shamor, c'est les interdits, Zahor, c'est le Oneg Shabbat. C'est le Oneg. Après, il faut beaucoup travailler pour que on puisse même jouir du chat mort. Que les interdits ne soient pas simplement des empêcheurs de vivre, mais qu'au contraire, ça donne un sens. Et ça prend beaucoup de temps. Ce qui est plus immédiat, c'est de mettre en avant le côté Zachor, le Oneg Shabbat. Ce qui est beau dans le Shabbat, ce qui est bon dans le Shabbat. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail qui consiste à être Ma'aneg et Shabbat. Ça veut dire réserver au Shabbat les bonnes choses. Alors, évidemment, il va y avoir des problèmes parce que toutes les bonnes choses ne sont pas permises Shabbat. Si quelqu'un veut faire de la musique, et c'est ça qui est son plaisir, il va avoir des problèmes pour Shabbat. Il pourra chanter, mais on ne pourra pas faire de la musique. Donc il faudra comprendre pourquoi on ne fait pas de musique. Mais ce n'est pas cette représentation-là qu'il faut mettre en avant. Alors, il va falloir se représenter le comment ce serait, comment ce sera, quand j'aurai fait tchouva. Dans les motivations pour faire tchouva, quand on regarde dans les sfarim classiques, la plupart des sfarim, ils décrivent le Gehinnom si on ne fait pas tchouva. Ils décrivent toutes les sanctions, toutes les punitions qu'il y aura. Il faut penser que quand ces ouvrages ont été écrits, les gens, ça les aidait à faire tchouva. Ça leur parlait. Ça suffisait à les inciter à faire ce qu'il faut faire, à ne pas faire ce qu'il faut ne pas faire. La question qui est pratiquement, c'est une question actuelle qui concerne pratiquement tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, ça ne nous parle pas tellement, ce genre de choses. Personne ne va bouger à cause de ça. Enfin, dans les gens que je connais, il n'y a pas beaucoup de gens qui bougeraient pour ça. Je crois que moi non plus, je ne bougerais pas pour ça. C'est pas que j'y crois pas, mais ok, j'y crois, c'est ma émouna, mais ça marche pas. Ça marche pas bien, en tout cas. Il faut autre chose. Il faut quelque chose qui marche dans nos générations. Au Moyen-Âge, où il y a encore quelques générations, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche pas vraiment. Enfin, encore une fois, peut-être chez les... on ne peut pas dire ça ne marche pas chez personne. J'entends que ça ne marche pas beaucoup, quoi. Ah, il s'est écrit dans les Sfarim comme ça. Oui, c'est écrit, parce qu'à ce moment-là, c'était ce qui marchait. Et qu'il y a encore, probablement, aujourd'hui, des gens chez lesquels ça fonctionne. Ce qui nous pousse à faire tchouva, y compris ce qui est écrit dans les sfarim, c'est ce qu'on appelle Yirat Shamayim. Yirat Shamaim, c'est littéralement, ça veut dire la crainte du ciel. La crainte, la peur. Pour la plupart des gens, quand la Yirat Shamaim veut dire Onesh, sanction, Gehinom, etc., souffrance, la plupart, c'est complètement paralysant. Ça me paralyse plutôt que de me pousser à faire quelque chose. Or, la vraie Yirat Shamaim, c'est quelque chose qui pousse à avancer, à faire. Donc, la Yirat Shamaim, alors, dans la version Onesh, elle poussait les gens à faire des choses. Si maintenant, aujourd'hui, ça ne pousse pas les gens à faire les choses, c'est que ce n'est pas vraiment la Yirat Shamaim. Une Yirat Shamaim qui est stérile, si vous voulez, qui n'est pas, qui fabrique pas une dynamique, ce n'est pas vraiment ça, la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, elle est faite pour dynamiser. Alors, il y a eu des moments, effectivement, effectivement, là, mais c'était déjà depuis un moment paralysant. La paralysie, c'est sous Staline, quoi. Les gens étaient paralysés, personne ne pouvait faire. On ne pouvait pas parler avec son voisin. On ne pouvait pas agir réellement tel qu'on voulait agir. On voulait agir. Parce qu'il y avait quelqu'un qui, sans aucune raison, pouvait, d'une minute à l'autre, vous tuez ou vous envoyez au goulag, etc. La Yirat Shamaim, qui est efficace, justement, c'est une Yirat Shamaim du type, en utilisant la stratégie du Yetzer Hara, dans le bon, mais pour le bien. C'est-à-dire, il faut produire une représentation dans mon esprit de l'accomplissement de la mitzvah. Comment ce serait si je faisais la mitzvah? Donc, cette représentation qu'il faut essayer de faire exister, ensuite, ça descend dans le massé. Le problème, c'est effectivement, on est surpris. Pourquoi la représentation, elle a marché chez Rabba? Pourquoi ce qu'elle a fait dans sa tête, ça l'a incité à passer à l'acte? Parce que ça veut dire, il y avait quelque chose qui l'a poussé. C'est un principe. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je veux dire, je ne connais pas le détail. Ça doit faire partie d'une forme de sorte de secret en quelque sorte. La chose existe. Elle existe un peu. D'une existence, comme on a dit, une existence dans l'esprit. Mais à partir du moment où ça existe dans mon esprit, alors ça va exister plus profondément et ça peut se réaliser. C'est un peu surprenant, quoi. Donc, pas vraiment dire, mais exactement comme, comme la peur faisait faire des mitzvot éloignés des averot. Alors, des fois, on utilise la peur. Des fois, on n'a pas d'autre moyen pour empêcher quelqu'un de faire une bêtise que de lui faire peur sur les conséquences. De la même manière qu'on ne sait pas exactement comment la peur poussait les gens à faire les mitzvot. De la même manière, je ne sais pas non plus comment cette représentation de « j'ai fait la mitzvah » et voilà comment c'est, dans quel état je suis, ben ça marche. Ça marche chez certaines personnes, ça marche peut-être pas chez tout le monde. C'est une des façons qu'on a aujourd'hui de faire marcher les choses. Si on prend par exemple une chose difficile, comme la prière. La prière, c'est quelque chose de difficile. Il y a une halakha. Par prière, j'entends la Amida, je connaissais. Il y a une halakha qui dit que dans la première bracha, celle qui termine par Magen Avraham, première bracha, on doit avoir la kavana. Là, à ce moment-là, l'intention, elle doit être là. Elle devrait être là tout le temps, mais si elle n'est pas là, d'une certaine manière, on n'a pas prié. C'est un peu embêtant, parce que si elle n'est pas là, alors on n'est pas en train de prier, et du coup, tout ce qu'on fait par la suite, c'est pas du tout évident qu'on a le droit de le faire. Or, ça fait partie des situations très connues, c'est que ça va très très vite. Je commence la première bracha et j'ai dit les quelques premiers mots et je suis déjà ailleurs. Je suis déjà ailleurs, je suis déjà à autre chose, je suis déjà à penser autre chose. On se dit non, il faut penser, sinon on n'est pas yotzé. Ok, on dit un mot, et le mot d'après, on est nouveau parti. Alors, on a l'impression qu'on est parti. Peut-être que la vérité, c'est qu'on n'est jamais entré. Peut-être que c'est qu'on n'a jamais commencé vraiment à prier. En français, ça veut dire que je ne suis pas investi dans ce que je faisais. On est dans un monde où on fait beaucoup de choses sans s'investir. On ne s'investit pas dedans. Vous me direz, peut-être que c'est pas mal parce que peut-être dans les Averot, on ne s'investit pas vraiment non plus. C'est peut-être pas faux. Peut-être que les Averot, nos Averot, elles sont des Averot. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire comme si elles n'existaient pas. Mais peut-être qu'elles n'ont pas le poids des vrais Averot. On est tellement petit que même nos Averot, elles ne valent pas grand-chose. Alors on me dirait, mais il faut, même si on ne se croit pas grand-chose, il faut faire tchouva quand même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne s'est pas investi dans la prière? Alors chacun prie comme il pense. Si on regarde dans la halakha, et je vous avais déjà demandé, j'en ai fait dans les shiurim sur la tfila, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que c'est prier? Qu'est-ce que c'est la tfila? On regarde dans Rambam. Rambam, il dit, c'est se tenir debout devant Hachem. Après, on va parler, mais d'abord, il faut se tenir debout devant Hachem. Se tenir debout devant Hachem, il faut bien qu'on se représente. On se tient debout devant Hachem. Il faut se représenter qu'est-ce que ce serait, effectivement, si je me tenais debout devant Hachem. Alors, dans les Rishonim, ils disent, il y a des psukim qui vont dans ce sens-là, qu'il faut se représenter qu'on est, d'abord, qu'on est au Beit HaMikdash. Donc c'est déjà un endroit sur terre, mais où on est proche d'Hachem. Donc, se représenter, se tenir debout dans le Beit HaMikdash. Et plus que ça, il y a aussi de s'imaginer, se représenter, qu'on est en haut, dans les mondes supérieurs. On n'est que Vayachol devant Hachem. Il ne s'agit pas de tout, de se représenter Hachem comme une... Mais de se voir... Vous voyez, l'Agmara, elle dit que les avotarishonim, pardon, pas les avotarishonim, les générations d'avant, elles prenaient une heure avant de prier. Une heure pour la prière elle-même et une heure pour redescendre de la prière. D'ailleurs, la Gemara, elle demande, dis-moi, il y a trois prières par jour, trois fois trois, ça fait neuf. Quand est-ce qu'il étudiait? Quand est-ce qu'il travaillait? Bon, la Gemara, c'est pas mon problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faisait pendant cette heure-là? Ils n'étaient pas en train de prier, ils n'étaient pas en train de dire des Tehillim. Ils faisaient un travail de préparation. Comme se tenir devant Hachem, ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est des mots. Mais qu'est-ce que ça, au-delà de ces mots, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il faut savoir que pour nous, tout ce qui concerne Hachem, dans notre rapport avec Hachem, c'est uniquement Hachem. Et c'est jamais Hachem et quelque chose d'autre. La tentation, elle était chez les... Par exemple, au temps d'Elio Hanavi, il leur a dit, mais... Il a dit aux Juifs, il leur a dit, mais vous avez un pied dans la Torah et un pied au service du Baal, qui était l'idole de l'époque. Il faut que vous choisissiez, vous ne pouvez pas avoir un pied dans chaque camp. C'est-à-dire que si je crains Hachem, mais je crains aussi autre chose, alors en fait je ne crains pas Hachem. Craindre Hachem ou aimer Hachem, c'est toujours, oui, uniquement. Ça supporte pas le avec. Alors, comme on est les Juifs, il faut tout de suite que je vous dise un exemple de contraire. D'accord? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Tachem Elokecha Tira. Ça veut dire, tu craindras Hachem ton Dieu, mais il y a un mot et avant, Aleph Tav. Et il y avait plusieurs grands maîtres qui ont essayé de donner du sens au mot et. Le mot et, il est fabriqué avec la première et la dernière lettre de l'alphabet. Donc, ça vient inclure quelque chose. Alors, par exemple, dans Bereshit bara Elokim et Hashamaim, ça veut dire, une des drachot, c'est Hashem a créé le ciel et tout son contenu. Et la terre et tout son contenu. C'est marqué Kabed et Avicha et Imecha, ton père, et qu'est-ce qu'il faut craindre aussi, ton grand frère ou ta mère et ta grande sœur. Toujours ajouté. Et celui qui a fait tout ce travail, quand il est arrivé au pasuk que je vous ai cité, et Hashem Elokecha Tira, il s'est arrêté. Il a dit, mais je ne peux pas mettre qu'il faut craindre Hachem et quelque chose d'autre. Alors on le dit, mais alors qu'est-ce qui... Tout ton travail de donner du sens à tous les et de toute la Torah, il tombe à l'eau. Il a dit non, non. De même que j'aurai un salaire pour avoir fait tout le travail sur tous les et, j'aurai aussi un salaire pour m'être arrêté devant ce et-là. Jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit Et Hashem Elok Hatira, l'herbot Talmide Chachamim. Tu dois craindre les Talmide Chachamim. Et Rabbi Akiva, il n'a pas craint de mettre ça avec un Kadosh Baruch Hu. C'est juste pour que vous sachiez que, bon, il faut après expliquer ce que ça veut dire craindre un Talmide Chacham, etc. Mais bon. Mais la règle générale, c'est qu'il n'y a pas de Et. C'est-à-dire, il n'y a rien à côté, rien avec. Par conséquent, quand je prie Hachem, et que mon intention, c'est d'être devant Hachem, de tenir devant Hachem, il faut que je sois bien sûr que je ne me tiens pas aussi devant autre chose. Donc, il faut que je sois bien sûr de ne penser à rien d'autre. Rien, absolument rien. Par conséquent, il faisait une heure de travail pour vider son esprit, pour être capable de se concentrer uniquement sur Hachem. Ensuite, il priait, et durant la prière, il s'élevait. Marel dit que Rabbi Akiva, il commençait la tefila à un bout de la pièce. À la fin de la tefila, il était à l'autre bout. C'est-à-dire qu'il était dans un autre monde. Ils étaient là. Et quand on est dans ce monde-là, tu ne peux pas brusquement redescendre sur terre. Parce que dans la prière, quand tu te tiens devant Hachem, alors la matière n'a aucune importance. Tu n'accordes aucune importance à quoi que ce soit d'autre. Tu ne peux pas redescendre dans le monde. Vous voyez, il y a le fameux exemple de Rabbi Shimon, quand il sort de sa grotte la première fois, lui qui était complètement dans l'étude, il sort et il voit des gens qui mettent le feu au monde. Hachem l'a dit, tu retournes dans ta grotte, si c'est pour mettre le feu au monde. Après, il a dû apprendre à sortir et à... C'était le travail avec Rabbi Shimon. Mais nous tous, si on faisait la prière, on ne pourrait pas redescendre brusquement. Un peu comme quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine, tu ne peux pas remonter brusquement. Revenir à la... Il faut des paliers. Et donc, ils avaient besoin du même temps pour redescendre qu'il fallait pour monter et qu'il fallait pour prier. Ceci, je, Je l'ai rapporté seulement pour que vous entendiez bien ce que c'est que prier, se tenir devant Hachem. Se dépouiller de toutes les autres attaches. Par conséquent, quand on commence à prier, il faudrait arriver à ce, au moins un temps de détachement. C'est un peu compliqué, même très compliqué. Mais c'est ça la kavana. La kavana, c'est je me tiens devant Hachem. Mais pour que ça ait un sens, alors les Chachamim m'ont donné cette image du Beth Amikdash ou bien de s'imaginer dans les hauteurs, etc. C'est-à-dire se détacher concrètement. Alors évidemment que c'est extrêmement difficile, et quand nous on a l'impression que ah, j'arrive pas à me concentrer, je m'étais concentré sur les trois premiers mots, et au quatrième mot, ça a dit, non, tu n'y étais pas déjà dans les trois premiers mots non plus. Ça n'a jamais commencé. Bon, alors, le but de l'exercice, ce n'est pas de pousser tout le monde au désespoir. On fait comme on peut, mais il faut vouloir faire les choses et il faut donc essayer de se représenter cette action. Comme Chava s'est représenté l'action de manger, même avec l'intention de ne pas manger, mais elle s'est représentée l'action. Nous aussi, on doit se représenter. Je suis devant Hachem. Je me représente devant Hachem avec mon imagination, chacun avec la sienne. Donc, il faut cette Yirat Shamaim. Cette Yirat Shamaim, c'est justement cette représentation qui va me faire bouger. Se représenter l'accomplissement, moi, dans l'accomplissement de la mitzvah. Alors chacun va utiliser la technique, essayer d'inventer un chemin. Je n'ai pas de chemin à donner. Cette idée que Yirat Shamaim, c'est vouloir faire les choses telles qu'Hachem veut que nous fassions. Alors, ça permet de se dire peut-être c'est pas convenable de faire cette chose-là si je veux faire cette autre chose comme Hachem veut qu'elle le fasse. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas, si effectivement tu veux essayer de faire les choses, faire cette mitzvah-là mieux que tu peux, comme Hachem veut que tu la fasses, alors il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire, qui sont contradictoires. Alors, l'idée est donc qu'il faut impérativement être présent à ce qu'on fait. Il faut s'investir dans ce qu'on fait. Il faut que je sois en train de faire la mitzvah. Il y a dans la Torah, Tariag Mitzvot, 613 mitzvot. Vous savez, Il y en a 248 qui correspondent aux membres du corps, 365 négatives, mitzvot négatives, mitzvot oui. Ils nous disent ne fais pas ça, ils correspondent au jour de l'année solaire. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre les mitzvot et le corps de l'homme, entre les mitzvot et l'environnement, le temps dans lequel on vit. Mais dans les mitzvot, la plupart du temps, ce sont des gestes. Et le geste, dans le monde d'aujourd'hui, il n'a pas bonne presse. Parce que on essaye de remplacer le geste par des robots. Mais les mitzvot, si vous remplacez par les robots, ça veut dire que vous dites que le geste n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que la chose soit faite. Je veux le résultat. Et malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire autrement que de faire le travail moi-même, mais si je pouvais faire en sorte que le travail soit fait par un robot, alors je voudrais, c'est ça que je veux. Or, depuis le Sinaï, et on a déjà parlé de ça, au Sinaï, on a reçu la Torah, on a aussi reçu les mitzvot, mais au Sinaï, ce n'était pas nouveau de recevoir des mitzvot. À Mara, avant le Sinaï, à Mara, on a déjà reçu plein de mitzvot. Et les mitzvot importantes, le Shabbat, Adouma, Kibbud Av Va'em, etc. Les mitzvot fondamentales. La différence il y a entre 10 mitzvot et 613 mitzvot, c'est à partir du moment où on a des mitzvot, alors, qu'il y en ait plus ou moins, c'est pas fondamental. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il y avait de spécial au Sinaï? Au Sinaï, la nouveauté, c'est qu'on est devenu metsouvé. Notre statut a changé. On est metsouvé. Nous sommes ordonnés. Les avot faisaient les mitzvot, mais ils n'étaient pas ordonnés de les faire. Nous, on est ordonné de faire les mitzvot. Mais metsouvé, c'est toujours metsouvé ve'osé, celui qui a reçu l'ordre et qui doit faire la chose. Faire la chose. Si c'est moi qui dois faire la chose, il faut bien que je m'investisse dans la chose. Les gens qui, les droitiers, ils mettent les tefillin sur la main gauche, sur le bras gauche. Alors, dans la Torah, elle s'occupe de tout, elle s'occupe aussi de la façon dont on se conduit, y compris aux toilettes. Et une des choses qui sont dites, c'est que il faut utiliser la main gauche et pas la main droite. Pourquoi? Parce que la main droite est la plus de doucha. Où est-ce que je mets les tefillin? Sur le bras gauche? Qu'est-ce que ça veut dire que la main droite est la plus de doucha que la gauche? C'est vrai. Je mets sur le bras gauche. Mais qui est-ce qui fait les gestes? Chez moi, c'est comme ça. Chez vous, c'est comme ça. Mais alors, peu importe. qu'on fasse dans un sens ou dans l'autre, mais c'est la main droite qui fait le travail. C'est pour ça qu'elle a plus de Kdoucha, parce que c'est elle qui fait le travail. Aïe, les tfilides sont sur le bras gauche avec les parchiotes, le chemin, les schémas, tout ce que vous voulez. Parfait. Mais qui est-ce qui pose ça? La Niar Tfilin, qui fait l'opération Lania, la main droite. L'acte est beaucoup plus important que le résultat, parce que si je m'occuperais que du résultat, bon, imaginez. Bon, alors peu importe qui me met les Tfilin. Alors, du coup, si c'est important, alors il faut savoir par qui il faut se faire mettre les Tfilin quand on est empêché de les mettre tout seul. Est-ce que je peux me faire mettre les Tfilin par un katan, par un goy, par un robot? D'accord, enfin, il y a quelqu'un qui trouvera un robot pour mettre les Tfilin, non? C'est la fin de toutes les mitzvot. Les mitzvot, elles doivent se faire avec le corps. C'est les gestes qui sont importants. Ce sont les gestes qui sont réflexifs. Nous sommes transformés par les gestes que nous faisons. Et pas par le résultat. Mais bon, c'est très facile, enfin, c'est relativement facile d'expliquer qu'est-ce qu'il faut se représenter dans une mitzvah d'assé. Mitzvah Asé, on va faire la mitzvah du Loulav. Je peux me représenter l'état dans lequel, enfin, ce que produira ce geste de bouger le Loulav. L'impact que ça aura, etc. Comme le représenter. Comment on fait dans les lotasés? Qu'est-ce qu'on se représente dans les mitzvot qui te disent ne fais pas ça? Ne fais pas. Ne dis pas de la shonara. Comment je travaille cette mitzvah pour m'investir dans cette mitzvah-là. La mitzvah de ne pas dire de la shonara. Comment je fais? Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais représenter? Quelqu'un de muet? Ce n'est pas une représentation, mais la shonara, il ne te dit pas que. L'interdit de la shonara vient te dire qu'il y a des façons de parler, de bonnes façons de parler, de mauvaises façons de parler. Dans le Sefer Even Shlema, il explique que le Yetzara, il utilise des arguments pour nous inciter à ne pas faire les mitzvot. Un des arguments, c'est de dire qu'en vérité, 613 mitzvot, c'est impossible. On ne peut pas faire 613 mitzvot, personne. Et même, bien sûr qu'on ne fait jamais nous-mêmes 613 mitzvot, mais faire toutes les mitzvot, servir complètement Hachem, c'est mission impossible. Au temps du premier Beth Amikdash, il y avait des gens qui faisaient des averot avec l'intention de mettre Hachem en colère. Je vais manger quelque chose d'interdit, pas du tout parce que j'en ai envie. Et comme c'est interdit et que j'ai un plaisir de mettre Hachem en colère, se disait-il, je vais le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de gens qui font des averot pour mettre Hachem en colère. C'est pas ça le problème. Le problème, il vient de la situation suivante. C'est un grand commentateur, l'éditeur du Eben Shlema, qui est sur ce Gaon-là, qui dit le grand problème, c'est que quand les gens ne savent pas, connaissent pas bien la halakha, ils ne vont pas consulter pour la connaître. Alors, s'ils sont religieux, disons-le comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, j'ai envie de faire ça, mais je suis pas sûr que j'ai le droit. Alors on va être marmire et je vais pas le faire. Et donc, les gens, ils sont marmire. Ils choisissent tout le temps la voie sévère. Et ça, dit-il, ça c'est impossible. Il n'y a plus de vie. Tout est interdit. Si tu connais la halakha, alors tu vas savoir, ça, oui, il y a un interdit, mais on peut le faire comme ceci, on peut le faire comme ça, ça, ce sera permis, etc. En vérité, ce qui se passe, c'est pourquoi les gens se cassent la figure là-dessus. Parce que comme ils sont tellement marmires, au bout d'un moment, c'est pas possible. Ils craquent. Et quand ils craquent, ils font des grosses fautes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut essayer d'utiliser toujours le même modèle. J'avais un prof qui disait que quand on a une idée, il faut la pousser jusqu'au bout. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Bon, c'est bon mathématicien. C'est vrai qu'il a beaucoup de publications qui sont toujours basées sur la même idée, mais. Alors là aussi, on va faire la même chose. On va essayer de prendre toujours cette idée de Chava. En fait, c'est une idée, on ne peut pas le dire, mais c'est Yetzirah qui l'a poussé. Donc, on va essayer de se représenter. Mais qu'est-ce que je vais me représenter? En vérité, on continue avec notre exemple du Lashon Hara. Pourquoi quelqu'un dit du Lashon Hara? C'est une grande question. Mara traite ce problème. Quelle motivation on peut bien avoir pour dire du Lashon Hara? Alors, une des grandes motivations, c'est que quelqu'un a envie d'être apprécié. Alors, il dit de la Lashon Hara, il parle, il dit des trucs. Et puis, il dit des choses sur lesquelles les gens réagissent. Donc, le problème de la Lashon Hara, c'est effectivement, le but, c'est, disons, je vais être reconnu dans tel et tel cercle. Je vais être apprécié, je veux. Ok, tu veux ça. Alors, il ne s'agit pas de dire tu n'as pas à vouloir ça. Ta neshama, elle a le droit d'avoir du désir. Tu veux être reconnu? Ok. Mais ton travail, c'est de dire, c'est vrai, le but, je vais le garder. Le chemin passe par la Avera. Ce chemin-là n'est pas le bon chemin. Alors réfléchis, invente, imagine un chemin permis. Et donc le travail qu'il faudra faire pour lutter, enfin pour travailler sur le mitzvot lot ha'asé, c'est de reconnaître pourquoi, qu'est-ce qui pourrait me pousser à faire quelque chose d'interdit. Eh bien, ok, cherche, documente-toi, demande, questionne, réfléchis, construis un chemin permis pour arriver au but. Alors, bien sûr, il n'y a pas de chemin permis pour tuer son prochain, pour piquer la femme de l'autre, etc. Il y a des choses sur lesquelles le chemin permis n'existe pas. Mais dans la Lashon Hara, le chemin permis existe. Tu veux être reconnu? Réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on te reconnaisse? Je ne sais pas, monte une association pour aider les gens. Bon, je ne sais pas, location de patins à roulettes, mais peu importe, rendre service. Voilà. Et tu vas faire quelque chose, construire quelque chose qui t'amènera cette reconnaissance que tu veux. Il ne s'agit pas de se priver de la reconnaissance en question. Il ne s'agit pas de se priver de la jouissance de telle et telle chose. Alors, ce n'est pas toujours exactement la même chose. Mais par exemple, Chazal dit qu'il existe quasiment, dans le monde du permis, quasiment tous les goûts qui existent dans le monde de l'interdit. Alors, il dit sur certaines choses. Alors, si quelqu'un veut absolument goûter le... Alors, tu n'auras pas cette chose-là, ce fromage ou cette viande ou ce vin-là, tu ne pourras pas l'avoir. Il n'existe pas dans le domaine du permis. Mais il y a quelque chose qui est analogue. Ça donnera la même jouissance à peu près. Et celle-là, cette autre chose-là, elle est accessible par un chemin permis. Donc à toi de travailler pour élaborer ce chemin permis. Inventer. Alors, par exemple, dans le Ben Adam le Chavero, dans les mitzvot interhumaines, certains disent, mais bon, ça se construit, c'est... Aujourd'hui, certains diront, ça passe par les minas ou par d'autres. D'accord? Pourquoi il faut que je conduise bien par rapport à mon prochain? Parce qu'il est Tselem Elokim, mais aussi il est porteur de Tselem Elokim, mais aussi il joue un rôle dans l'économie du monde, exactement comme moi, etc. Ok, il y a des gens auxquels ça va parler. Ça va les inciter à bien se conduire avec l'autre. Mais il y en a d'autres pour lesquels ça ne va pas les inciter à quoi faire quoi que ce soit. En philosophie, ils peuvent y penser, mais concrètement, non. Et donc, il va falloir chercher comment se motiver pour bien se conduire à l'égard de son prochain. Il faudra inventer des chemins qui me permettent d'avoir la relation avec l'autre dans le domaine du permis, sans que ça soit, sans en passer par la flatterie ou par ceci ou par cela ou la violence, etc. Ça, ce sera sur les lotas. Bon, juste encore un mot. On va prier pour la vie. Alors, Jachana, on prie pour la vie. C'est écrit dans la parasha de la semaine, c'est écrit « Ubacharta b'chaim »« Tu choisiras la vie. » Je te demandais, c'est quoi la mitzvah de « Ubacharta b'chaim »« Tu choisiras la vie. » Choisira la vie, c'est alors que tu feras des mitzvot parce que les mitzvot, ils entraînent la vie. Et de toute manière, je suis obligé de faire les mitzvot. Je suis déjà obligé de faire les mitzvot parce qu'elles m'ont été données comme mitzvot. Me dire, tu feras les mitzvot parce que ça entre dans Bachar Tabrahim, choisira la vie, c'est redondant. Qu'est-ce que Bachar Tabrahim va ajouter? Quelle nouvelle mitzvah ça me donne? Ça ne donne aucune mitzvah supplémentaire. On a déjà les 613 mitzvot. Cette mitzvah, elle vient dire ce que dit le verset vraiment. Ubacharta, tu choisiras. Choisir, ça veut dire je prends ça et je ne prends pas ça. En vérité, on peut agir, y compris en faisant des mitzvot, sans jamais choisir vraiment. Et donc, si on ne pratique pas les mitzvot avec cette intériorité, je choisis la vie, je choisis le côté du tov, la mitzvah est pour le moins pas complète. C'est ça la halakha. Et c'est donc, c'est ça la spécificité, si on veut, de Rosh Hashanah. Prier pour la vie, c'est choisir la vie. C'est-à-dire, nous sommes responsables de notre vie. On est responsable de la nôtre, on est responsable de la vie des autres, on est responsable de la vie en général. Et donc, si le monde entier qui est jugé à Rosh Hashanah, il n'est pas jugé pour le bien, ben, c'est une accusation contre nous. C'est-à-dire que le bien, c'est seulement la résultante d'un choix. Une espèce, on pourrait dire, une espèce de bien inné, c'est pas vraiment un bien. On dirait, mais alors, il faut pas éduquer nos enfants à faire le bien, parce que sinon ils vont le faire automatiquement. Alors justement, il faut les éduquer à choisir le bien. Il faut qu'ils prennent conscience que je suis toujours dans une situation de choix. J'ai toujours le choix. Et je dois trancher. Je dois choisir le bien. Je dois choisir de faire la mitzvah. Et c'est ce choix, c'est aussi une forme d'investissement dans la mitzvah. C'est pas je suis porté à faire la mitzvah, c'est-à-dire que la mitzvah se fait, y compris avec moi. Je fais la mitzvah. C'est moi qui suis sauvé. J'ai l'obligation de veiller à ce que la Torah diffuse, soit diffusée. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je peux le faire en étudiant moi-même et en produisant de la Torah. Mais je peux aussi, si je n'ai pas la tête ou je n'ai pas envie, je peux aussi aider quelqu'un d'autre à diffuser la Torah. C'est une option, on peut choisir, c'est un choix. Je choisis de diffuser. Maintenant, le mode de diffusion, il y a plusieurs modes de diffusion de la Torah. Chacun doit faire en fonction de ses capacités, en fonction de la situation dans laquelle il est. On a demandé à mon maître, René Bracha, finalement, vous recevez énormément de gens. Vous donnez des conseils, etc. Ça vous prend beaucoup de temps. Ce temps, il est pris sur votre étude. Parce que même si vous dormez très peu, etc., mais le temps, il est pris sur votre étude. Il a répondu que si Hachem voulait que j'étudie quelques milliers de pages de plus, il ne m'enverrait pas les gens. S'ils m'envoient les gens, c'est qu'ils ont besoin et que Hachem veut que je réponde. Alors je réponds. Il s'agit de quelques milliers de dapim, il ne s'agit pas d'un daf ou plus ou moins. C'était des milliers de dapim qu'il aurait pu étudier de plus en plus. Mais bon, il y a des centaines de gens, peut-être plus, qui ont bénéficié de ces conseils. Les situations qui ont été complètement changées, modifiées, etc. Par son enseignement, par ses conseils. Le Hachem a voulu, on avait besoin de lui à cet endroit-là. Voilà. Je crois que je dois seulement vous souhaiter Shana Tova. C'est ça? Est-ce que j'ai